l'actu. Voici les titres du journal.
Le premier tour des élections municipales en France s'est déroulé hier à Saint-Gingolph. Il s'agissait d'élire le ou la nouvelle maire. Nous l'aurons en direct dans ce journal. Le festival BD au Château s'est terminé hier à Aigle sur un succès malgré une météo parfois capricieuse. Le public s'est rué sur les ouvrages qui révèlent parfois les histoires touchantes de leurs auteurs. Les écoles de Montet ont terminé vendredi dernier leur semaine sans écran. Un succès pour cette 4e édition, mise sur pied par la référente numérique montésane. Et puis en basket, le BBC Montet-Chablais a mis fin samedi à une série de 6 défaites d'affilée. La formation valaisanne a surtout pris une option pour la qualification en play-off.
Pour la météo, de plus en plus de nuages cet après-midi avant de retrouver demain des conditions bien plus ensoleillées. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Jeannot. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. On vous le disait en titre, hier se déroulait le premier tour des élections municipales en France. À Saint-Gingolph, il s'agissait d'élire le ou la nouvelle maire pour remplacer Géraldine Fliger, qui a choisi de ne pas se représenter après 12 ans à la tête de la commune. Deux listes ont ainsi été déposées, celle de Leïla Fougali, unie pour Saint-Gingolph et Bray, face à l'adjoint actuel au maire, Joël Grand-Colo-Benet. Et la liste Saint-Gingolph et Bray, une voix commune. Et c'est ce dernier qui l'a emporté avec 218 voix. Soit 71% des suffrages. Joël Grand-Colo-Benet, vous êtes avec nous prochainement le nouveau maire de Saint-Gingolph. On va revenir avec vous sur ce résultat en quelques mots. Comment vous l'analysez ?
Oui, bonjour. Écoutez, ce résultat, il est très satisfaisant, étant donné qu'une élection n'est quand même jamais jouée d'avance et en présence de deux listes, c'est toujours très satisfaisant de récolter plus de 70% des suffrages. Donc, je remercie encore les Gingolaises et les Gingolais qui nous ont fait confiance. Et moi je vois ça comme l'aboutissement d'un engagement personnel d'un certain nombre d'années dans la vie gingolaise et j'aurai plaisir du coup dans cette nouvelle fonction à poursuivre cet engagement au service de ma commune.
Et vous serez investi donc ce samedi. Que sera l'avenir de Saint-Gingolph ces prochaines années? Est-ce que la collaboration avec la partie suisse du village va-t-elle se poursuivre?
Oui, alors en tout cas, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon ADN depuis un certain nombre d'années. Plus que la collaboration, c'est vraiment l'amitié entre nos deux pays. Je suis depuis bientôt 25 ans musicien d'une fanfare qui s'appelle Les Enfants des Deux Républiques. Donc j'ai vraiment à cœur d'unifier en tout cas, autant que faire se peut, les deux parties de notre commune et plus largement les trois Chablais. Je sais que c'est un projet qui est important, sur lequel de nombreux enjeux sont en question, que ce soit en termes de mobilité, d'aménagement du territoire, de développement touristique. Donc, Saint-Gingolph, de par sa position stratégique vraiment au carrefour de ces trois Chablais, a de toute façon un rôle à jouer. Et j'aurai à cœur d'apporter ma pierre à l'édifice avec toutes celles et ceux qui voudront faire de même.
Eh bien, merci beaucoup Joël Grand-Colo-Benet. On le rappelle, vous avez été élu par la population gingolaise hier et vous serez donc le prochain maire de Saint-Gingolph côté français. On vous souhaite une belle journée et puis merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, belle journée.
Il était une fois la jolie aventure d'Issée en camping-car.
Il était possible de la découvrir lors de la 7e édition du festival BD au Château, qui s'est clôturé hier sur une bonne note. Environ 1500 personnes se sont pressées dans les couloirs du Château d'Aigle ainsi que dans les expositions organisées dans la rue du Cloître. Pas moins de 25 artistes étaient présents pour rencontrer le public et dédicacer leurs œuvres, dont Thierry Capetzone et Yvan Molinaro, auteur de Petit en Suisse, mais aussi de jeunes auteurs à l'image d'Isée. Âgée de 10 ans, elle a signé une histoire scénarisée par son papa et dessinée par sa maman.
On a fait un voyage pendant une année en camping-car. Un jour, on était en Grèce, dans les météores. C'est comme des énormes rochers qui sont... Et c'est très très beau. Et je tenais la main avec mon papa et on fait ça souvent. Et puis, je lui ai dit, on était en train de conscientiser ce moment. On disait, ta main, elle est toute chaude, la tienne toute froide, des choses comme ça. Et puis là, je lui ai dit, papa, est-ce qu'un jour, moi aussi, j'aurai une petite main dans ma grande main? Et du coup, lui, ça l'a beaucoup touché. Et puis, il a répondu, c'est ça l'humanité, un peu une succession de petites mains dans des grandes mains. Puis en fait, on trouvait que c'était hyper universel et qu'il y avait ça partout. Papa, il m'a dit, mais si on écrivait un livre? Moi, d'abord, j'ai pensé que c'était une très bonne blague, mais finalement, c'est vraiment fait.
Son papa, Mathias Kunz, nous raconte comment il a imaginé ce livre.
On a vraiment construit ça ensemble. On était en voyage, on n'avait pas d'école, pas de contraintes, on avait vraiment beaucoup de temps. Donc on a passé des heures et des heures tous les deux à griffonner sur des bouts de papier, nos idées. On était vraiment dans un délire. On était convaincus qu'on avait un chouette projet, mais on le faisait surtout pour nous en fait, parce qu'on chérissait aussi ce lien. Père-fille, petite main et grande main, qui est très universel. Un alignement d'étoiles a fait qu'on a été édité, on a fait ce bel objet, et puis maintenant c'est un vécu qu'on a les deux, et puis c'est un petit trésor qu'on chérit et qu'on continue à faire vivre le voyage aussi, parce que là, on est là, on peut parler de ce voyage qu'on a fait il y a 3 ans, et puis ça le garde vivant.
Le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour la prochaine édition de BD au Château. Ce sera mi-mars 2027 et c'était un sujet de Valérie Favre.
Les écoles de Montet ont terminé vendredi leur semaine sans écran.
Cette 4e édition est qualifiée de succès par les organisateurs puisque 210 élèves ont décidé de poser leur téléphone la semaine dernière. Du côté des enseignants, nombreux sont ceux qui ont tenté de limiter l'utilisation du tableau blanc interactif. Les écoliers ont également apprécié les activités organisées pour les détourner des écrans. Aferdita Bojiki, municipale montézane chargée de l'enseignement, comprend que c'est un sujet compliqué pour les parents.
Certains parents sont plus ou moins sensibilisés à cette problématique. Je pense qu'on en parle pas mal, mais c'est pas toujours évident de mettre cette limite. Les parents ont beaucoup d'autres limites à mettre. Celles-ci, elles se rajoutent de nos jours et c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est effectivement une manière peut-être de découvrir ou redécouvrir d'autres activités. Les élèves vont peut-être en parler à la maison, vont spontanément se limiter. C'était le but d'ailleurs, et faire en sorte que la famille aussi s'intègre dans cette dynamique et dans ce questionnement et dans ces actions-là.
Des propos recueillis par Valérie Favre, mis sur pied par les écoles montézanes et la référente numérique Sarah Appenzeller. Cette semaine sans écran devrait à nouveau avoir lieu l'année prochaine. Si elle devait être acceptée par le peuple et les cantons le 14 juin prochain, l'initiative contre une Suisse à 10 millions d'habitants menacerait la prospérité et la sécurité du pays. C'est avec cette formule sans ambiguïté que Beat Jans a lancé ce matin à Berne la campagne du Conseil fédéral contre le texte de l'UDC. Il était accompagné du président de la Conférence des cantons et des partenaires sociaux. L'initiative prévoit que dès que la Suisse franchit le seuil des 9,5 millions de résidents, le Conseil fédéral doit trouver une autre solution avec l'Union européenne que la libre circulation des personnes. C'est le modèle économique suisse qui s'écroulerait selon Beat Jans.
L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » menace la prospérité, la sécurité et la stabilité de la Suisse. Dans un contexte international incertain, cette initiative ajouterait de l'incertitude à l'instabilité. Et elle attaque frontalement la voie bilatérale. Cette initiative ne résout aucun problème, elle en crée de nouveaux. Le Conseil fédéral et le Parlement répondent aux défis concrets en trouvant des solutions et nous poursuivons la voie bilatérale.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. La population décidera donc du sort à réserver à l'initiative Pas de Suisse à 10 millions. Dans 2 mois, le 14 juin, l'UDC qui porte l'initiative n'a pas encore présenté son argumentaire. Les enfants et les jeunes en Suisse sont toujours plus préoccupés par leur avenir professionnel et les crises mondiales, relève aujourd'hui la 2e étude jeunesse de Pro Juventute. Les filles et les jeunes femmes ainsi que les jeunes issus de l'immigration sont nettement plus touchés. Et pour la première fois, les jeunes ont été interrogés sur le recours à une intelligence artificielle en cas de difficulté. En 2025, 1 jeune sur 10 indique s'y adresser. Une proportion similaire dit se tourner vers des services spécialisés et des offres de conseils comme le numéro d'urgence 147, note encore l'organisation dans un communiqué. On passe au sport et en basket. Le BBC Montéchablais a remporté un match capital samedi soir au Reposieux. Tombeur de Lugano sur le score de 90 à 75, les Sangliers ont laissé la place de lanterne rouge du championnat aux Tessinois. Ils ont également mis fin à une série de 6 revers consécutifs, faisant preuve d'application défensive et d'une forte présence physique sous la raquette. Autant d'éléments qui leur avaient fait défaut ces derniers mois. Ne reste plus qu'à construire sur ce succès pour terminer la saison au mieux, indique le coach montézan José González Dantas.
C'est comme une victoire, il va aider finalement au niveau mental pour gagner encore la confiance, pour aller à fond, pour ne pas laisser tomber la saison par exemple. Et je crois qu'avec cette victoire, ça c'est hyper important. Et on va prendre l'énergie pour essayer de montrer ce qu'on a fait aujourd'hui, essayer de montrer aussi les prochains matchs et continuer comme ça.
Justement, prendre cette énergie, cette confiance pour le prochain match contre un autre adversaire direct, Nyon, il va aussi être super important ce match.
Oui, bien sûr. Ça c'est, finalement, ça c'est, comme tu as bien dit, c'est un adversaire direct. Alors voilà, on est perdu de un point ici, on a gagné de un point là-bas. Alors on doit être prêt pour un match très serré et on doit essayer de battre là-bas.
Des propos recueillis par Basile Dayer. La rencontre entre Montais et Nyon se tiendra sur le parquet des Vaudois samedi à 17h30.
Une Chablaisienne figure parmi les 6 nommés au prix de Meilleur Espoir Roman 2025.
Médaillée d'argent sur le sprint U20 des mondiaux de ski alpinisme de Morgin, Robin de Seine s'est vue plébiscitée par l'aide sportive suisse, organisatrice de la cérémonie. La Lesnoud de 20 ans sera opposée à la kayakiste Eileen Vuillemier et à la judokate April Fowo pour obtenir cette récompense qui sera remise le 1er avril prochain au Musée Olympique de Lausanne. Dans la catégorie masculine, ce sont le skieur alpin Gabin Janet, le triathlète Thibaut Rivier et le spécialiste de course d'orientation Loïc Berger qui seront en lice.
L'actu en continu, radiochablais.ca.